Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, tous les jours de la semaine, très tôt à la radio, ou quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast. On poursuit notre semaine américaine sur France Culture, et depuis lundi, dans le Réveil culturel, on se demande ce que sont devenus nos rêves américains. Avec aujourd'hui, au Réveil, un hommage au cinéaste John Huston, un rêve américain à lui tout seul, puisqu'on retrouve dans les films du grand cinéaste toute la littérature américaine qu'on aime, et tout ces légendes d'Hollywood qui nous ont tant fait rêver le siècle dernier, et même aujourd'hui d'ailleurs. L'actualité nous permet de voir en ce moment au cinéma et en version restaurée deux films de John Huston. D'abord Le Malin, adapté de Flannery O'Connor, réalisé en 1978, et Au-dessous du volcan, adapté de Malcolm Lowry, bien sûr, sorti en 1984. Deux grands films qui n'ont pas pris une ride, de bonnes reprises au cinéma dans quelques salles d'art et d'essai, mais on peut aussi voir ou revoir Le Malin et Au-dessous du volcan en DVD et Blu-ray chez Carlotta. Pour évoquer le cinéma et la bibliothèque idéale de John Huston à travers ses films, l'université Serge Chauvin, critique, historien de cinéma américain. Bonjour Serge Chauvin.
Bonjour, tout fait carrément.
Est-ce que je peux dire aussi Hustonien de longue date ?
De longue date, alors j'ai peu travaillé sur lui. En revanche, je m'aperçois qu'au fil des années, son cinéma m'importe de plus en plus.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
William Blackstone, Frontiersman.
Nobody with a good car needs to be justified.
Look at one wine, she was gone.
And where you are ain't no good unless you can get away from it.
Followed me, nobody could follow you.
I stop drinking, I do anything.
Pascal,
my friend on time. Sure, sure.
I'm back.
C'est la bonne nouvelle de ce mercredi, on peut revoir au cinéma ou en DVD, ou en Blu-ray, mais surtout en version restaurée, Le Malin et Au-dessous du volcan, réalisé par John Huston. John Huston, né en 1906, mort en 1987, et qui a pu raconter à travers ses films le 20e siècle américain, en passant souvent d'ailleurs par la littérature de 100 ans. On va en parler bien sûr, mais pour commencer, Serge Chauvin, comment définiriez-vous le cinéma de John Huston ? Est-ce qu'il incarne le rêve américain ? Son envers,
plutôt son envers ou son dehors. Le paradoxe de Huston, c'est d'abord c'est un Américain cosmopolite. Bon, il est fils d'un acteur et d'une journaliste, élevé en partie hors des États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, qui plus tard a élu domicile soit en Irlande, soit surtout au Mexique, et qui est très atypique en un sens. Souvent expatriés, dont la majorité des films, même s'ils mettent en scène des personnages américains, se déroulent hors du territoire américain et qui a une grande défiance vis-à-vis des, sinon des idéaux supposés du pays, parce qu'il a quand même fait un court-métrage pour le bicentenaire de l'indépendance, mais plutôt de ce qu'ils étaient devenus. Et en règle générale, ces films qui se déroulent aux États-Unis sont soit dans la première période des films noirs qu'il a réalisé ou qu'il a coécrit comme les tueurs de Robert Siodmak, soit dans la dernière partie de sa carrière, des films extrêmement désenchantés comme les Misfits, les Désaxés, ou encore plus tard des visions très 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 sombres comme celle du Malin ou déjà de Fat City, qui montre une Amérique profonde filmé de manière très prosaïque, presque comme un champ d'épandage, ou avec des personnages soit à la dérive, soit perdus dans leurs obsessions destructrices et autodestructrices.
Grand témoin du XXe siècle américain, donc de ce siècle qui a donné naissance, au moins chez nous en Europe, de la notion du rêve américain.
Oui, mais ce rêve américain, il existe souvent à l'état de vestige, on va dire. Je pense notamment aux Misfits où on ne capture même plus les chevaux, on les abat. Enfin, donc il y a une sorte, d'ailleurs. Houston a très peu pratiqué le western et il a offert un western là encore très démythifié dans Jugé hors la loi par exemple. Et il a, alors même s'il a des héros privilégiés qui semblent incarner surtout via les stars qui les personnifient comme Humphrey Bogart un certain idéal, un certain ethos américain, il y a quand même un décalage justement à cause de, enfin grâce à son côté cosmopolite et des idéaux qu'il faut peut-être trouver ailleurs en fait. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose que finalement on mésestime, c'est que si Houston peut représenter l'Amérique qu'on aime vue d'ici, c'est non seulement bon par la beauté de son œuvre et par le fait que malgré tout ces films ont aussi incarné un certain idéal hollywoodien, on va dire justement par l'éclat des stars, ce dont vous parliez dans votre introduction, mais aussi un idéal progressiste. Et ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler parce que bon les films de Houston paraissent souvent assez peu politiques, on va dire, mais justement ils le sont peut-être en creux. Mais il y a un hiatus pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il arrête de travailler à Hollywood et où il s'engage pratiquement, mais
avec d'autres d'ailleurs, avec John Ford, avec George Stevens. C'est très bien de rappeler ça, Serge Chauvin, parce qu'on peut voir les films qu'il a fait sur Netflix en ce moment.
Oui, ou dans un coffret qui s'appelle L'Amérique en guerre, où il y a aussi toute la série Pourquoi nous combattons de Frank Capra. Mais effectivement, Houston, comme les cinéastes que vous citiez, ou William Wyler, étalé sur le théâtre des opérations, donc filmé des images documentaires, alors commanditées par les autorités militaires américaines, donc a priori des films de propagande.
Mais sauf que ça ne sera pas des films de propagande.
Exactement.
Ni pour lui, ni pour Ford d'ailleurs.
Exactement, qui ont été très mal reçus par l'armée, parce que par exemple dans la bataille de San Pietro, qui est une bataille extrêmement sanglante et une victoire à la Pyrrhus, on va dire, des troupes américaines pendant la campagne d'Italie en 1943. Ils filment les soldats qui meurent, ils filment les morts, ils filment les funérailles, ils filment les civils sans abri, etc.
Et ils filment ensuite, et dans un très très beau film, toujours disponible sur Netflix, ceux qui reviennent du front complètement traumatisés, cassés, malades.
Absolument.
Et d'ailleurs, c'est un très beau film, c'est-à-dire oui. Même techniquement parlant, esthétiquement parlant, c'est un très très beau film, et pourtant, c'est une charge contre la guerre. D'ailleurs, ce film, comme la plupart de ces films réalisés par des grands cinéastes en pleine guerre, vont être interdits.
Oui, alors que effectivement, le film auquel vous faites allusion, donc justement sur le traitement psychiatrique des soldats traumatisés, qui s'appelait Que la lumière soit, est resté inédit jusqu'en 1980. Les autorités militaires ne voulaient pas qu'il soit vu. Et au retour, en fait, Houston a été aussi l'un des plus l'un des grands opposants au début de la chasse aux sorcières, au début des listes noires, etc. Ce qu'il est le macartisme, donc parmi les hollywoodiens. Quand il fait Kill Argo en 1948, bon, il y a l'idée du gangster qui revient, mais à travers ça, c'est l'idée, est-ce que le vétéran s'est battu pour rien? Est-ce que l'Amérique va être aussi corrompue qu'avant? Et ensuite, il fait un film, alors malheureusement très difficile à voir, qui s'appelle Les Insurgés en 1949, qui est où des Américains rejoignent les rangs de révolutionnaires cubains qui s'opposent à une dictature. Bon, ce qui est aussi une métaphore sur la guerre d'Espagne, mais c'est quand même assez là aussi assez révélateur d'une prise de position.
Rebelle, John Huston.
Oui.
Alors,
oui,
il était tout à la fois rebelle, aventurier, marin, voyageur. Il a beaucoup voyagé. Vous venez de préciser, Serge Chauvin, un noceur, on peut dire.
Oui.
Sportif en tant que boxeur, militaire, on l'a dit, joueur, peintre, collectionneur d'art. Il était aussi écrivain, puisqu'il a écrit des scénarios. Il est arrivé au cinéma, d'ailleurs, par le scénario.
Absolument.
Un acteur qu'on a pu voir dans de très très bons films, dont le dernier, l'inachevé film d'Orson Welles, où il joue presque son rôle, un éternel voyageur, avant d'être un cinéaste. Mais s'il fallait résumer la filmographie de John Huston à travers ses adaptations, parce que dès le début, dès 1941, dès son premier film, Le Faucon Maltais, il adapte Dashiell Hammett, et ça va être comme ça jusqu'à la fin de sa carrière, puisque Les gens de Dublin sorti en 1986, c'est une adaptation de James Joyce. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour le cinéma? Il a adapté Kipling, L'homme qui voulut être roi, Tennessee Williams, La nuit de l'iguane, Carson McCullers, Reflet dans un œil d'or, Moby Dick de Melville, La Bible, il a collaboré avec Truman Capote, oui. Il a travaillé avec Arthur Miller pour Les Désaxés, bien sûr, et il a même demandé un scénario à Jean-Paul Sartre, oui. pour Freud, Passion secrète. Et puis, bien sûr, nous, on va beaucoup plus parler de ces deux films qui ressortent en version restaurée, Le Malin d'après Flannery O'Connor et, bien sûr, Au-dessous du volcan d'après Malcolm Lowry. Est-ce que c'est le plus littéraire des cinéastes américains ?
Peut-être, effectivement, quand on considère sa filmographie. Et par ailleurs, effectivement, il a longtemps hésité entre plusieurs carrières, entre une carrière de peintre, entre une carrière de et il a fait un biopic de Toulouse-Lautrec qui s'appelle Moulin Rouge. Et il y a un travail sur l'image dans d'autres films, sur la couleur en particulier. Il a écrit et publié des nouvelles. Il a écrit des pièces de théâtre. Et d'ailleurs, à propos de Sartre, qui n'était peut-être pas le meilleur choix pour un scénario sur Freud, au demeurant, mais c'est Houston qui a créé Huis Clos en 1946 à New York. C'est ouais. lui qui l'a mis en scène au théâtre pour la première fois aux États-Unis.
Que disent ces livres adaptés au cinéma de John Huston? Est-ce que c'est sa bibliothèque idéale déballée
pour... Oui. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre. Et effectivement, avec des livres de chevet comme L'homme qui voulut être roi de Kipling, avec des classiques américains, alors et notamment la conquête du courage de Stephen Crane dont le film s'appelle en français La charge victorieuse, qui est un film sur la guerre de sécession et qui est dénaturé par les producteurs, mais qui est aussi une charge contre la guerre, justement. Bien sûr, le roman noir avec Hammett et Burnett. Et puis, mais effectivement, et notamment les écrivains sudistes. Donc, on va revenir sur Flannery O'Connor. Et ce qui est frappant aussi, c'est donc dans ce rapport, d'une certaine manière, presque de dilettante par rapport au cinéma, mais avec une vraie, une sorte de déférence envers la littérature, un goût des écrivains, et on pourrait ajouter aux écrivains avec lesquels il a collaboré, Romain Gary pour l'adaptation de son roman Les Racines du Ciel.
Bien sûr.
Et donc un goût pour la compagnie des écrivains. Et sa fille Angelica racontait que voilà, il fallait absolument lire à la maison, enfin que c'était presque une obligation pour les enfants de Houston. Et par ailleurs, en même temps, une déférence et une certaine absence de complexe, puisque il s'est affronté à des œuvres réputées inadaptables. Donc Moby Dick,
la Bible,
effectivement, bon, qui était une commande, mais effectivement, ouais. La barre était peut-être mise trop haut en l'occurrence, mais au-dessous du volcan, bien sûr, sur lequel d'autres cinéastes s'étaient cassés les dents, ou Joyce, alors certes Jean de Dublin, mais avec une et pour lui Ulysse avait été une révélation, il l'avait lu dès les années 20. Il y a effectivement une volonté de se colter avec les grandes œuvres, et puis une grande liberté, une grande absence de complexe, c'est-à-dire en décidant d'en garder ce qui l'intéresse. Et finalement, de façon, on a dit beaucoup de mal de Moby Dick, de son film, et à tort, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'essaye pas de restituer ce qui est irrestituable de l'écriture elle-même, ou des développements théoriques, abstraits, métaphoriques, etc. Pas plus qu'il ne prétend rendre, et d'ailleurs il refuse même rendre le côté hallucinatoire, mythologique, cosmogonique, etc. d'au-dessous du volcan, mais plutôt d'en garder ce qui l'intéresse, c'est-à-dire notamment des récits d'obsession, et de révolte, d'ailleurs parfois métaphysique, en les ancrant dans des milieux en plus ou des pays comme le Mexique qu'il connaît intimement.
Norman Mailer affirmait que John Huston était le seul cinéaste et artiste capable d'être comparé à Hemingway, mais c'est votre collègue Serge Chauvin, votre collègue Andrew Saris, qui trouve une bonne définition, puisqu'il décrivait John Huston comme un personnage d'Hemingway perdu dans un roman de Dostoïevski.
Jolie formule, surtout de la part de Saris, qui, comme un peu sous l'influence des cahiers du cinéma, n'était pas forcément très 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 admiratif de Houston en tant que tel, de son approche de la littérature, de son des involtures de certains de ses films, ou de l'absence de style reconnaissable, parce qu'il y a une dimension très très empirique, très pragmatique chez Houston, c'est-à-dire que chaque film, chaque projet pose des enjeux formels différents qu'il résout de manière empirique, mais il y a quelque chose de très juste en même temps, c'est-à-dire que la dimension évidente de cette parenté hemingwayenne, voilà, un certain machisme, l'aventurier, le boxeur, le torero amateur, le bourlingueur, etc., et le buveur aussi. Et en même temps, il me semble que
personnages sont des anti-héros, donc il y a le côté aussi tragique.
Absolument, mais il y a une dimension mais tragique différente, c'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est ce qui me gêne parfois chez Hemingway, c'est un côté un peu donneur de leçons, et le fait que malgré tout les personnages doivent toujours savoir quoi faire. Enfin, il y a une sorte d'éthique du comportement, etc. Alors que les personnages de Houston vont au bout d'eux-mêmes, mais parfois de façon effectivement totalement anti-héroïque.
Avec leurs doutes, humanisme,
avec leurs limites, quand Houston présentait Quand la ville dort, donc son grand film noir de 1950, il disait qu'en gros chaque personnage est défait parce qu'il appelle son vice, mais d'une certaine manière son vice c'est sa pulsion, c'est ce qui le définit le plus justement. Et donc c'est ce que je trouve aussi très beau chez Houston, c'est que même si parfois il y a une sorte de surplomb dans certains films un peu axé sur la dérision par rapport à ces personnages, presque toujours dans ses meilleurs films, il ne porte aucun jugement, y compris sur les comportements les plus aberrants ou sur les défauts les plus impardonnables de ces personnages, quoi. C'est
avec vous, Serge Chauvin, on essaye d'imaginer la bibliothèque idéale de John Houston à partir des films, parce qu'il a adapté des écrivains qu'il aimait bien, mais il perdait jamais une occasion pour parler des livres. C'est ainsi que j'ai retrouvé une archive très étonnante de John Houston. Il est en France, c'est en 1982, et on lui pose la question de son rapport aux comédiens. Comment il dirige ses comédiens? Et ben là aussi, il va trouver une référence littéraire, et je suis sûr que cela va vous étonner. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup étonné.
I don't go on to a set and impose an idea.
Sur le plateau, je n'impose pas une idée. Parfois, j'en ai une en tête, mais j'espère que l'acteur la trouvera en premier. S'il ne la trouve pas, je suggère ce qui peut l'amener à le faire. J'essaye d'être le prolongement de tout, de la pensée de l'acteur, du personnage. Et au lieu d'imposer en dictateur ce que l'acteur doit faire ou ce que nous devons tous faire, je me glisse parmi eux. Alors Maigret, il avait lu même les aventures de Maigret. Simenon, j'arrive pas à imaginer Simenon dans la bibliothèque de John Huston, Serge Chauvin.
Alors j'ignorais, je connaissais pas cette citation, mais en même temps, voilà, il a aimé Hamet, il a aimé Burnett, donc pourquoi pas, effectivement. Enfin, je veux dire, il y a pas effectivement de hiérarchisation, si vous voulez, par rapport au roman policier, et après tout, voilà, Gide admirait Simenon aussi, mais c'est effectivement très 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 étonnant. En plus, surtout quand il applique ça à la maïeutique de sa direction d'acteur. Effectivement, c'est très savoureux, en effet.
Pour terminer, puisqu'ils ressortent en version restaurée, Le Malin au-dessous du volcan. Quand je découvre Le Malin, je me dis, c'est incroyable, c'est encore d'actualité, puisque c'est quand même l'histoire d'un jeune homme qui rentre en rébellion contre la religion, contre Jésus, contre l'église de Jésus, contre la bigoterie des Américains. Là, on est quand même dans l'Amérique qui continue à être cette Amérique bigote.
Ah, mais ça, c'est un film absolument extraordinaire, peut-être le plus étonnant de sa dernière période. Et d'ailleurs, Houston est l'un des rares cinéastes de sa génération à avoir complètement réussi le virage du nouvel Hollywood et avoir réalisé de très grands films dans les années 70 et 80. Et c'est un film d'une radicalité rare, effectivement. Et il tourne en Géorgie, Géorgie contemporaine, mais qui n'a pas l'air d'avoir changé, ni dans son, sinon s'être dégradé, et dans son paysage et dans son racisme. Le racisme est absolument constant dans le dialogue des personnages, et effectivement le fanatisme religieux, avec le paradoxe d'un personnage jusqu'au boutiste, petit-fils de prédicateur joué par Houston lui-même, qui veut créer l'Église de la vérité sans Christ, enfin qui développe une théologie hérétique qui peut sembler athée, et Houston lui-même était agnostique, et qui en même temps est une sorte de puritanisme poussé encore un degré plus loin, quoi. Et ça correspond beaucoup à l'ironie d'ailleurs du roman de Flannery O'Connor. Et effectivement, on a une vision d'une noirceur, d'une ironie grotesque en même temps, qui est extrêmement impressionnante et qui nous aide effectivement à comprendre justement, notamment le phénomène évangélique ou le fondamentalisme si présent encore dans l'Amérique de Trump.
Malcolm Lowry, adapté par John Huston, ça donne quoi? Parce que c'est l'autre film qui sort en version restaurée, grand film, au-dessous du volcan.
Alors là, c'est une veine d'ailleurs, disons, on va dire, d'un classicisme souverain qui est celle aussi de son ultime film, Jean de Dublin. Et donc, il a recentré donc le roman foisonnant, proliférant de Lowry sur son argument narratif en le prenant au sérieux, avec une admirable incarnation du personnage du consul par Albert Finney. Et avec aussi un sous-texte politique beaucoup plus présent que dans le roman, la guerre d'Espagne, la montée du fascisme au Mexique, etc., parce qu'on est en 1938, et surtout avec une connaissance intime du Mexique, une vision qui n'a rien de folklorique, que aussi bien la fête des morts que les bordels, etc. Et il y a une dimension entre Au-dessous du volcan et Le Malin, il y a une dimension presque bunuelienne de l'œuvre de Houston qu'il faut aussi saluer et souligner.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
On le sait, c'est toujours mieux de voir les films au cinéma, mais par les temps qui courent, on est bien content de savoir qu'on peut voir Le Malin et Au-dessus du volcan en DVD également, et avec des bonus, et parmi ces bonus, un éclairage, une analyse de mon invité ce matin, Serge Chauvin. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Notre semaine américaine continue, puisque demain, on va parler de la France, et comment la France a pu être une terre d'exil pour les Noirs américains. Est-ce que le French Dream existe à travers un exemple concret, celui des musiciens, et plus particulièrement, puisqu'on en parlera demain, de Quincy Jones. Passez une bonne journée sur France Culture.